Salut Jeanne, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ?
Bien sûr, Laurita, merci beaucoup de m'avoir invitée, premièrement. Alors, je m'appelle Jeanne Claes, je suis juriste en droit de l'environnement de formation. J'ai pas vraiment exercé dans ce domaine-là, néanmoins, j'ai baigné dans le secteur de l'écologie et du développement durable depuis toute petite, et c'est le secteur vers lequel je me suis dirigée puisque j'ai travaillé dans le secteur des cosmétiques bio pendant quelques années, et depuis 3 ans, je suis l'hôte d'un podcast qui s'appelle Basilic et qui est consacré à l'environnement et aux initiatives positives.
Génial, c'est hyper bien résumé. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu t'es lancée là-dedans, qu'est-ce qui t'a touchée, quel a été le parcours, quoi, finalement?
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé avec mon compagnon à Hong Kong en 2016. On avait envie de changer de vie, on a tous les deux quitté nos boulots en France et on a profité du Working Holiday Visa pour aller à Hong Kong et s'installer pendant 1 an. De 1 an, on est passé à 4. Mais voilà, en gros, on est resté 4 ans là-bas. Et la première année, je me suis vite rendu compte que pour moi, qui avait l'habitude d'écouter la radio toute la journée, qui était vraiment accro à ce média-là, ça allait être très compliqué, puisque avec le décalage horaire, quand je me levais et que je branchais ma radio sur Internet, j'étais à distance, évidemment les programmes étaient ceux de la nuit pour la France et c'était pas vraiment réjouissant d'entendre les programmes de la nuit à 7h du matin quand toi tu dois commencer ta journée. Donc tout naturellement je me suis tournée vers les podcasts, mais à l'époque en 2017 je savais même pas qu'il existait une distinction entre podcast natif et podcast de la radio, donc j'écoutais simplement les programmes de radio qui me plaisaient, et puis en naviguant sur Apple Podcasts j'ai découvert des podcasts anglo-saxons, des podcasts américains et quelques podcasts français. Donc à l'époque qu'il y avait Siam de Génération XX qui venait de se lancer. Moi, j'en écoutais beaucoup, en fait, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et je me suis dit, mais c'est trop dommage, il n'y a pas de podcast sur l'écologie. Ce serait chouette de donner la parole à toutes celles et ceux qui s'investissent au quotidien, qui ont envie de changer les choses, qui se bougent. Et j'en avais marre, en fait, qu'on donne une image trop négative de l'écologie dans les médias. Tu vois, quand on aborde la question climatique dans les médias conventionnels, c'est tout de suite très inquiétant, très angoissant. On nous parle de chiffres, de réchauffement. Et alors, évidemment, il ne faut pas du tout occulter ces données-là, hein, c'est pas ce que je dis, mais moi, j'avais envie de montrer qu'on peut aussi l'aborder sous un angle positif, et donc c'est ce que j'ai fait en recevant, alors à la base, c'était une fois tous les 15 jours, des invités engagés.
Ok, d'accord. Bah du coup, j'imagine qu'en plus, avec ce podcast-là, t'as dû en apprendre pas mal, parce que du coup, les invités, eux, sont spécialisés aussi, donc c'est vraiment mon top. Au quotidien, première question, est-ce que ça a un impact au quotidien dans ta vie ? Comment tu fais justement, qu'est-ce que tu as changé en fait dans ta vie depuis que tu t'es lancée là-dedans ?
Alors, ça a eu un impact évidemment. En fait, si tu veux, je connaissais déjà bien ce secteur de l'écologie, de l'environnement, etc. C'était vraiment un secteur qui m'attirait depuis toujours. Et moi, j'ai fait du droit pour faire du droit de l'environnement, même si à l'époque, il n'y avait que 2 masters en France. Enfin, voilà, ça a toujours été mon objectif. Donc, évidemment, j'ai beaucoup appris. Ça a renforcé mes connaissances dans plein de domaines. Et surtout, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres thématiques. Si tu veux, moi, quand je parlais d'écologie en 2017 et même avant, j'avais toujours ce prisme du droit, vu que c'est les études que j'ai faites, mais j'avais pas toute la dimension et je me rendais pas compte à quel point l'écologie finalement peut s'immiscer dans tous les champs du quotidien. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la mode durable, que j'ai commencé à m'intéresser à la finance, aux énergies, les énergies renouvelables versus le nucléaire, que je me suis aussi intéressée à la santé. Et en fait, j'ai constater que l'écologie vraiment était partout et qu'on pouvait regarder tout ce qu'on fait dans notre vie avec cette vision ou ces lunettes, si tu veux, de l'écologie. Et en fait, c'est probablement ce que j'ai appris, c'est que dès que maintenant on me parle d'un sujet, dès que j'aborde un nouveau sujet, j'ai envie de m'y intéresser en réfléchissant à la meilleure façon de l'aborder, la meilleure façon de réduire son empreinte, son impact, etc. Donc ça, c'est clair que ça, c'est ce qui a changé. Et puis après, ça m'a permis de découvrir des gens exceptionnels, des hommes, des femmes exceptionnels avec qui je garde des relations privilégiées, qui pour certains sont devenus des amis. Et voilà, c'est en fait, ça m'a permis de baigner dans un écosystème qui est riche, qui est inspirant, qui est positif.
Ouais. C'est clair. Et puis, effectivement, déjà, de s'entourer de personnes comme ça, on se tire vers le haut. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est vrai que moi, je regrette énormément qu'à l'école, tu vois, par exemple, on ne nous parle pas d'écologie. Alors, peut-être qu'à l'époque, puisque je ne suis plus toute jeune, c'était pas un sujet, bien que à mon sens ça devrait, enfin ça aurait dû être un sujet depuis longtemps. Mais tu vois, je pense que maintenant peut-être qu'ils se sensibilisent un peu plus les enfants, et on éteint les lumières, les trucs basiques en fait. Mais moi j'ai pas le souvenir qu'on m'ait vraiment éduquée là-dessus, quoi. Enfin mes parents, mais sinon à l'école pas tant que ça.
Non, à l'école pas du tout. À l'école à l'époque c'était quand même un sujet très très peu abordé. Et là j'ai récemment enregistré un podcast justement sur cette thématique-là, qui est sorti la semaine dernière, et où je recevais un papa au foyer et une marque de jeux écolo. Et c'est vrai qu'en fait, on constatait qu'à l'école, ce n'était pas un sujet, même si ça commence à l'être. Il y a des écoles qui commencent à sensibiliser les enfants, qui commencent aussi à proposer aux enfants de faire leur propre compost, tu vois, juste prendre le réflexe. Bon, bah, tu as mangé une clémentine, hop, tu mets tes épluchures dans une petite poubelle de compost, qui commencent vraiment à les éveiller sur ces problématiques-là. Il est certain que les enfants d'aujourd'hui, que cette nouvelle génération a terriblement conscience des enjeux écologiques, qu'elles s'intéressent à ces questions-là et qu'ils sont tous imprégnés par ce sujet. C'est plus du tout une question qui peut être ignorée comme c'était le cas quand on était plus jeune.
Ouais, c'est sûr. Et heureusement, j'ai envie de dire que heureusement que les choses sont en train de changer. Alors, comme tu l'as si bien souligné, l'écologie, ben, en fait, elle s'incruste, elle s'immisce à peu près dans tous les domaines. Mais parfois, je pense qu'on peut se sentir un petit peu perdu. Tu vois, il y a des personnes qui sont très bien intentionnées, mais qui ne savent simplement pas par où commencer, qui se disent, est-ce que ça a vraiment un impact. Tu vois, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se disent, ok, bon, bah, moi, je vais peut-être couper le chauffage, je vais peut-être faire ci ou faire ça, ou faire du compost, mais est-ce que ça va vraiment avoir un impact? Parce que, bah, il n'y a que moi, en fait. Alors qu'en fait, pas du tout. Le truc, c'est que si tout le monde fait des petits gestes, on s'en sortirait bien. Mais alors, ma question pour toi, c'est par où commencer d'après toi?
Alors, ça, c'est vrai que je pense que tu as raison, c'est difficile, on peut vite se sentir perdu. Comment faire? En fait, moi, je trouve que la meilleure option, c'est de prendre le sujet qui vous tient le plus à cœur. Donc, si vous êtes une fashionista ou un fashionista, pourquoi pas vous renseigner sur la mode éthique en visionnant des documentaires qui vont vous parler, qui vont vous intriguer, qui vont vraiment vous renseigner sur ce sujet que vous appréciez. Si vous êtes cuisinier, cuisinière, tournez-vous vers l'écologie et l'alimentation. Comment est-ce que je peux m'approvisionner en circuit court? Comment est-ce que je peux privilégier le bio, des fruits et des légumes de saison? Et aller chercher les informations sur les sujets qui vous intéressent. En fait, c'est très compliqué de s'intéresser à l'écologie et de vouloir agir si on le fait par contrainte et que ça ne nous parle pas. Tu vois, il faut vraiment qu'on ait une sensibilité et qu'on se rende compte, ah oui, bah alors tiens, moi qui allais, 20 fois par an chez Zara, maintenant j'ai réduit cette consommation-là, je privilégie le seconde main, j'essaye de me tourner vers des marques éthiques qui proposent des alternatives super sympas, et hop, tout de suite, on se rend compte de l'impact qu'on a et on se rend compte de ce changement-là. Et ça nous encourage à aller plus loin. Et en fait, moi, vraiment, mon conseil, et c'est celui que je donne à toutes mes auditrices et tous mes auditeurs, c'est d'y aller pas à pas. En fait, quand on découvre l'urgence climatique, on a tendance, et qu'on commence à sensibiliser à tous ces sujets, on a tendance à se dire, mais il y a tellement à faire, j'y arriverai jamais. Mais non, en fait, il faut y aller petit à petit, et c'est déjà très bien. Donc, petit à petit, vous allez changer peut-être votre salle de bain en privilégiant des cosmétiques bio, rechargeables, pourquoi pas tendre vers le zéro déchet. Il ne faut jamais être dans un rapport de culpabilité avec vous-même, parce que c'est la meilleure façon de tout stopper.
De rien faire, oui.
Voilà, et d'avoir juste, d'en avoir marre, d'en avoir ras-le-bol, et de se dire, non, c'est trop compliqué, je ne peux pas y arriver. Donc, vraiment y aller step by step, et puis petit à petit, voilà, en 6 mois, on instaure une nouvelle routine. Et puis, bah, peut-être que 6 mois ou même 1 an après, on se dira, OK, je peux aller plus loin. Comment est-ce que je peux faire? Ça, je peux le changer. Et puis, très vite, en fait, vous allez vous rendre compte que ces petits changements-là, dans votre quotidien, ça ne va pas avoir de grandes conséquences. Ça ne va pas vous compliquer la vie. Par exemple, je pense qu'un moyen très facile de s'investir, c'est de changer de fournisseur d'électricité. Tu vois, on est très souvent chez EDF, parce que c'est comme ça, parce que la plupart des Français le sont. Mais en fait, ça prend, quoi, 10 minutes, un quart d'heure de changer et de se tourner vers un fournisseur d'énergie qui privilégie des énergies renouvelables, comme c'est le cas pour Équateur par exemple, mais aussi Enercop. Et rien que de faire ça, après vous êtes tranquille pour tout le reste de l'année. Ça vous a pris 15 minutes, mais vous savez que vous soutenez plus la filière nucléaire et que vous privilégiez l'éolien, le renouvelable, l'hydraulique. Tu vois, donc ça peut être un petit moyen. Et en fait, moi, c'est vraiment genre des petits gestes du quotidien et qui nous font plaisir, parce que l'écologie dans la contrainte, l'écologie de subi, j'y crois pas.
Non, c'est sûr, et c'est super intéressant, je connaissais pas du tout Équateur, donc comment te dire que je vais en parler autour de moi.
Bah oui, toi t'es aux États-Unis, mais en, ouais. France, en France, moi j'avais hâte de rentrer en France pour pouvoir aller chez eux et voilà, et souscrire et me dire, bon bah j'ai fait une bonne action et ça m'a pas demandé grand chose et au quotidien ça ne me change strictement rien.
Ouais, c'est sûr. Mais tu vois, c'est vraiment dommage parce que c'est plein de choses, il y a plein de choses qui existent. Même, tu vois, tu parlais de la mode éthique. Moi, je suis en train de lancer ma marque de vêtements 100% éco-friendly, on va dire, ou en tout cas 100%, j'espère, un maximum. Ouais. Et j'ai appris plein de choses, mais que peut-être que c'est les lobbies qui le cachent un maximum, ou alors peut-être que les gens ne se renseignent pas, mais tu vois, il y a des informations, même quand tu les cherches pas, elles viennent à toi, et bizarrement, ces informations-là, pour le moment, malheureusement, elles ne viennent pas vraiment naturellement à toi. Il faut vraiment être dans une démarche de se renseigner, être dans une démarche de s'améliorer.
C'est clair, c'est des informations qui sont bien gardées parce que ça arrange tout le monde.
C'est ça, tout le monde sauf l'environnement.
Exactement.
Très bien. Tu vois, moi, j'ai un gros problème, j'ai un dilemme, tu vois, une grosse dissonance cognitive, c'est que tout ce que je sais, en fait, j'essaie de l'appliquer. Malheureusement, le voyage reste encore un gros problème, parce que concrètement, prendre l'avion, enfin, tu vois, être écolo au quotidien, c'est très sympa, mais prendre l'avion, finalement, est-ce que t'es pas en train de ruiner tous tes efforts? Donc, comme tu dis, c'est déjà bien de faire des petits gestes. Mais est-ce que t'as des conseils? J'ai vu qu'il y avait, j'ai écrit un article la dernière fois sur le slow travel, mais concrètement, tout le monde n'a pas les moyens de poser un mois de vacances et d'y aller doucement, de prendre la voiture ou des transports ou les trucs comme ça, tu vois.
Bien sûr. Oui, le slow travel, c'est vrai que c'est une vraie question. J'avais reçu d'ailleurs au micro Céline de Is Now Good qui, elle a dû rentrer à cause du Covid, mais en fait, avec son compagnon, ils avaient prévu de partir vraiment de changer de vie et de devenir nomades. Donc, ils ont commencé par changer d'activité professionnelle puisque leurs anciens boulots ne leur permettaient pas d'être nomades. Et puis, petit à petit, en 2-3 ans, ils ont pu avoir une activité qui se fasse 100% à distance. Et c'était hyper intéressant. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est beaucoup plus compliqué quand tu as des enfants qui sont scolarisés, quand tu as une famille, que ce n'est pas ton ambition ou ton choix de vie. Moi, pour avoir vécu à l'étranger pendant 4 ans, je sais très bien l'impact qu'a l'avion sur notre empreinte et j'en ai bien conscience. Un conseil, alors déjà, évidemment, essayer de limiter les déplacements, c'est-à-dire qu'on a eu tendance avec le développement des vols un peu low cost, tu vois, je pense qu'on est à peu près de la même génération, on a dû y assister. Moi, je me souviens quand EasyJet a commencé à proposer des vols à 40 ou 50 euros pour aller en Europe, etc. On était comme des fous et on se disait, ok, super, on y va pour 2 jours, sans vraiment penser aux conséquences derrière tout ça. Alors, moi, le premier conseil, c'est essayer de réduire les déplacements sur une très courte durée. Par exemple, un week-end qui nécessite 6 ou 7 heures d'avion, tu vois, par exemple, aller à New York pour un week-end, essayer de voir si on ne peut pas plutôt faire 15 jours, vraiment profiter de l'instant, vraiment rester sur place, ça, c'est l'idéal. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Après, le tourisme, évidemment, ça a un gros impact, mais la majorité des gens qui prennent l'avion, c'est quand même pour le travail. Et je pense que la crise du Covid nous aura permis de se rendre compte qu'en fait, ces déplacements-là n'étaient pas nécessaires, ou en tout cas pas tout le temps, qu'on peut parfois les limiter, qu'on peut faire beaucoup de choses à distance. Et j'espère que, tu vois, les grandes entreprises qui avaient tendance à envoyer tous leurs cadres partout dans le monde plusieurs fois par an se diront aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas jouer un petit peu notre rôle et essayer de sensibiliser les gens en les envoyant travailler à l'étranger qu'une ou deux fois par an, par exemple. Donc voilà, il ne faut pas non plus trop se flageller en tant que citoyen et citoyenne. Il faut réfléchir. Et puis si vous vous dites, ce voyage-là, par exemple, partir à Barcelone depuis Paris, vous vous dites, je peux le faire en avion. Ah, si je pose un jour de plus, je peux le faire en train. Pourquoi pas privilégier le train? Ça vous permet de voyager, d'être entre amis si vous le faites entre amis. Ça vous permet sinon de profiter. Moi, j'adore le train, j'adore lire dans le train, écouter des podcasts, travailler. Je trouve que c'est un univers très, très inspirant. Donc, ça peut aussi être l'occasion de se réapproprier le voyage. Et puis là, il y a quand même une forte mobilisation au niveau européen qui va permettre de réhabiliter en fait des lignes ferroviaires pour les trains de nuit. Donc, on pourra à nouveau aller à Bruxelles en train de nuit, aller à Berlin, aller dans plusieurs pays européens, et ça je trouve que c'est une super alternative parce que t'as pas besoin de poser une journée en plus, tu dors dans le train et le lendemain t'es arrivé à destination, c'est parfait, tu peux passer le week-end sans avoir eu une empreinte catastrophique.
C'est sûr que en fait je pense que quand t'as vraiment envie de devenir plus conscient, il y a des options. Maintenant, je pense que la limitation de certains, c'est peut-être le côté confortable. Tu vois, il y a des personnes qui préfèrent se dire « Ok, non, moi, je prends l'avion, je dors dans un hôtel bien au chaud vendredi soir. » Enfin, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça. Et c'est une histoire de réalignement avec ses valeurs aussi, tu vois.
Exactement.
Enfin, c'est très... C'est... Oui, le confort, c'est peut-être une de tes valeurs, mais est-ce que quid du confort contre, par exemple, l'environnement, les animaux, enfin même la planète, tout court, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment des questions à se poser sur le long terme. Et comme tu dis, à mon avis, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain sur tout, tu vois, parce qu'il y a tellement de domaines qu'il y aurait trop de pression. Tu connais des sites, bon, pas tous, parce qu'évidemment, il y en a des centaines, mais tu vois, des sites intéressants. Bon, déjà, il y a ton podcast, c'est pour ceux qui veulent se former un petit peu plus. Mais tu vois, des sites qui te répertorient les bons plans ou... Alors, j'avais trouvé qu'il y avait des... Bon, le Google est mais je me rappelle plus comment il s'appelle. Donc, je sais pas si ça te parle.
Oui, alors en Google Écolo, tu en as deux qui sont les leaders du marché. Tu as soit Ecosia, qui va permettre de planter des arbres en fait un petit peu partout dans le monde, soit Lilo. Et Lilo, là, tu finances des associations en fait. Tes recherches permettent de financer des associations qui sont engagées pour la protection de l'environnement, mais pas que. Il me semble qu'il y a d'autres types d'associations aussi. Okay. Moi, j'utilise Ecosia à titre personnel, mais je pense que les deux sont très, très bien. Alors, si on a envie d'aller un peu plus loin, de se renseigner, bien évidemment, il y a on peut se diriger vers certains médias qui sont vraiment spécialisés sur la question. Hein. Je pense à des médias comme Reporter, Novetic, mais là, qui sont peut-être déjà plus pour un public qui est confirmé ou qui est déjà sensibilisé et éveillé à ces questions-là. Quand on est totalement débutant, qu'on vient de découvrir toutes ces notions, la meilleure option, selon moi, hein, pour pas se sentir submergé, c'est juste de choisir un projet ou une chose sur laquelle on a envie de se renseigner. Par exemple, toi, tu es fan... de sport ou quoi que ce soit, eh bien, moi, ce que je te conseille, c'est dans les personnes que tu suis déjà, les personnes que tu écoutes régulièrement, voir laquelle peut avoir une approche un peu plus écolo et essayer de creuser le sujet. Par exemple, ça peut être une influenceuse ou un influenceur, ça peut être un podcasteur ou une podcasteuse, un média, et vraiment te rapprocher de cette personne-là et voir les suggestions qu'elle peut te faire parce que ce sera sur un domaine qui t'intéresse. Parce que moi, en fait, le problème que j'ai, c'est que recommander des médias, en fait, bien souvent, si tu veux, ils sont déjà trop pointu et on en oublie le pourquoi du comment, pourquoi on a envie de s'intéresser à l'écologie, pourquoi on a envie de préserver notre environnement, tout simplement parce que pour que nos enfants, leurs enfants, nos arrière-petits-enfants et toutes les générations futures puissent vivre en harmonie sur cette planète et qu'on fait partie du vivant. Il faut arrêter de considérer l'homme comme un être supérieur, on fait partie de cette nature, on fait partie du vivant et donc en vraiment toujours prendre ce prisme de ce qui nous passionne pour se renseigner et ouvrir le champ des possibles, pour moi, c'est la meilleure option. Alors, évidemment, sur Basilic, j'aborde plein de sujets et c'est le but aussi, c'est de permettre aux gens de se dire, bah voilà, moi, j'adore, je suis fan de finance. Bon, bah, je me renseigne sur la finance éthique. Je ne sais pas s'il y a des fans de finance qui existent, hein, mais peut-être. et voilà.
D'accord. Alors, la finance, je t'avoue que là, franchement, j'ai aucune idée, mais j'imagine. Hein. Ou en tout cas, si c'est pas le cas, il y a un gros truc à lancer. On prend très bien tes conseils. Deux questions pour toi. Première question, est-ce que tu es végane, du coup, ou pas ?
Alors, je ne suis pas végane. Je suis végétarienne depuis longtemps. En fait, moi, je n'aime pas la viande. Ça ne me fait pas plaisir d'en manger. Donc, bien avant que ce soit pour des considérations environnementales, j'avais banni la viande de mon alimentation. Il peut m'arriver d'en manger. Par exemple, quand j'étais enceinte, j'avais très envie de manger de la viande. Okay. Donc je me suis écoutée et j'en ai mangé et je ne suis pas végane, je vis en Haute-Savoie quand même maintenant donc il y a beaucoup de fromage dans les parages, par contre je consomme pas du tout de lait pareil parce que c'est pas en fait mon organisme ne le tolère pas très bien, donc si tu veux j'ai une alimentation végétarienne avec si je fais des gâteaux etc ils seront véganes mais il peut m'arriver de manger des œufs, il peut m'arriver de manger du fromage, voilà. Mmh.
Bon, t'es flexi-végétarienne, quoi. Enfin, flexi.
Exactement.
Ouais. Ok. Et la dernière question, du coup, c'est que, comment tu gères ton entourage, parce que tu vois, c'est, je sais que parfois, bizarrement, les gens, ça les énerve quand tu vois, quand tu peux te faire taxer d'écolo, pareil pour, bon, là, pour les véganes, c'est la même chose, mais je veux dire, généralement, tu vois, quand tu as des convictions et que tu essaies de faire entendre un peu tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, tu as envie de communiquer aussi là-dessus, parfois, c'est pas forcément bien pris parce que soit les gens se sentent un petit peu attaqués parce qu'ils n'arrivent pas forcément à en être au point où toi tu en es, soit peut-être que en fait, ça ne leur parle pas du tout. Donc, comment est-ce que tu gères avec ton environnement? Avec ton entourage et tout ça.
Alors, très bonne question. Pour ce qui est de ma famille, ça a été assez facile parce que ma maman est convaincue de tout ça depuis très longtemps. Mon père a une marque de soins bio depuis plus de 35 ans, fabriquée en France, etc. Donc, si tu veux, au sein de ma famille, ça n'a pas été très compliqué. Ma grand-mère avait aussi ouvert un magasin de produits bio il y a 30 ans. Donc voilà, c'était pas un sujet chez nous. Après, avec les amis, c'est vrai que ça peut être difficile parfois. En fait, moi, je suis pas toujours là à rappeler les chiffres, à rappeler la situation, etc. Parce que je pense que tout le monde en a plus ou moins conscience et que j'ai pas envie d'être la rabat-joie de service. C'est pas l'intérêt. Comme je te le disais, moi, je suis vraiment sous l'angle du positif. En revanche, c'est vrai et ça devient de plus en plus difficile pour moi de pas soulever ces questions, de pas interroger sur le sujet, mais je le fais toujours, j'essaye en tout cas, personne n'est parfait, mais j'essaye de le faire dans la bienveillance et juste en disant « Ah oui, tu t'es acheté 3 manteaux cette année, peut-être que pour l'année prochaine, tu pourrais privilégier le second main, ou en tout cas, si tu n'en veux plus, essaye de les donner à des associations, essaye de les revendre, voilà, et vraiment, tu vois, d'éveiller, voilà, plutôt donner des conseils et des pistes de réflexion. Et puis après, en général, les gens reviennent vers moi en me disant « Au fait, Jeanne, tu m'avais parlé de ton fournisseur d'électricité ou tu m'avais parlé d'un site pour recycler les vêtements. » Et on entame la discussion comme ça. Donc ça, c'est chouette. Et puis pour toutes celles et ceux qui sont plus radicaux, que ce soit des écolos, des véganes, mon conseil, c'est quand même de privilégier les relations humaine que vous avez déjà. Si vous êtes amis avec ces gens-là, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'ils ne partagent pas votre point sur le véganisme, peut-être qu'ils ne partagent pas votre regard sur l'écologie, mais ce n'est pas grave. Rappelez-vous toujours pourquoi est-ce que vous êtes devenu amis avec ces personnes, qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce que vous aimez partager avec elles, et puis si vous ne pouvez pas aborder ces questions, eh bien, c'est pas grave. Quand vous êtes avec eux, les abordez pas et profitez juste du moment, profitez de ce qui vous fait du bien, parce qu'on a aussi besoin de ça, que la situation, et d'autant plus cette année, est quand même vraiment difficile, qu'il y a des moments qui sont pesants et on a besoin d'être entouré. Et si on a créé un lien avec une personne, c'est qu'il y avait une raison, donc il faut toujours se garder ça en tête.
Oui, totalement. Et puis, comme tu l'as si bien souligné, personne n'est parfait, et peut-être que certains ne sont pas encore à ce niveau-là, au niveau de l'écologie, sur un domaine, mais peut-être qu'ils font quelque chose d'autre dont on n'a pas forcément conscience, donc il faut rester quand même assez ouvert d'esprit. Je pense qu'on ne sait pas, tu vois, ce que font les gens, en fait, dans leur quotidien non plus, donc on n'apprend pas vraiment des reproches, on apprend plutôt des encouragements, donc il faudrait perpétuer un peu ça.
Exactement, et puis tu vois, moi, il peut très bien m'arriver d'oublier ma gourde et d'acheter une bouteille d'eau, et des fois, je me dis, attends, mais si je croise un auditeur ou une auditrice, c'est la honte.
Ils vont faire la brigade.
Et puis, en fait, non. On s'en fiche parce que personne n'est parfait. Et je préfère qu'on soit des milliards d'écolos imparfaits mais sensibilisés qu'une poignée d'écolos parfaits.
J'adore. C'est exactement ce qui est sur ton compte Insta, si je ne me trompe pas, hein, dans ta bio. Écolo imparfaite, j'adore.
Exactement.
C'est top. Franchement, merci beaucoup. C'était hyper riche en infos. Je vais essayer de répertorier tous les liens des sites dont on a parlé en podcast. Évidemment, ton podcast aussi pour les personnes qui souhaitent en savoir plus. De toute façon, on te retrouve bientôt sur Wake Up, n'est-ce pas?
Oui.
Pour les personnes des questions. Voilà, voilà.
Exactement.
Parfait. Je communique toutes tes infos. Et merci encore 1000 fois pour ton temps. C'était vraiment chouette.
Merci beaucoup à toi, Laurita. C'était très intéressant. Et puis, c'est toujours un plaisir d'échanger. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger davantage avec celles et ceux que ça intéressera. Et puis surtout, si tu as besoin d'informations pour la barre de description, des liens complémentaires, n'hésite pas, j'ai plein de ressources à partager.
Parfait, merci beaucoup.
Merci.